France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Et à la veille de la clôture du Salon de l'agriculture, nous recevons maintenant Thibaut Dumas en duplex de Nantes. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour le site d'investigation Médiacité, vous avez réalisé une enquête sur les éoliennes de Nozay. Ça se trouve entre Rennes et Nantes en Loire-Atlantique. Il s'agit de 8 éoliennes précisément, dont le démarrage semble coïncider avec des troubles ressentis par des vaches laitières, mais pas seulement. Alors vous allez nous expliquer ça et on va commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe précisément à Nozay en 2009 ?
Eh ben en 2009, on propose en fait à deux exploitants de Nozay, en fait hein, c'est quatre communes, mais on va dire que c'est Nozay pour simplifier, qu'il y ait des éoliennes qui soient installées sur une partie de leur parcelle où ils font pâturer des vaches. C'est une société toulousaine qui s'appelle Abowind, avec un exploitant qui s'appelle KGAL qui font la proposition. Et ces deux exploitants, bah, ils disent, bah, ok, très bien. En plus, ça fait un petit complément de rémunération de l'ordre de quelques milliers d'euros par an en fonction du nombre d'éoliennes qu'on a sur ces parcelles et aussi de leur activité, hein, de leur productivité. Et c'est comme ça que tout commence. Mais surtout, tout commence véritablement avec les problèmes qui vont démarrer assez vite lors des travaux en fait des éoliennes. Hein. C'est même pas la mise en service, c'est déjà lors des travaux.
D'accord, on va y venir. Juste un mot, parce que ces paysans, a priori, sont plutôt sinon pro-éoliennes. En tout cas, ils n'ont pas d'objection de principe.
Alors c'est la particularité sans doute de ce parc et de l'enquête que j'ai menée, c'est que nous n'avons pas affaire à des collectifs anti-éoliens comme il en existe beaucoup en France. Ici en Loire-Atlantique, on a le cas des parcs éoliens offshore bien connus. Non, là ce sont des agriculteurs qui le disent eux-mêmes. Nous on pense que c'est l'avenir, c'est le développement durable. Et d'ailleurs ils ont refusé les offres de services de nombre de collectifs qui sont assez actifs sur ces questions-là.
Ouais, donc a priori ils n'étaient pas réservés, pas réticents. Et puis donc les travaux démarrent, ce que vous nous expliquez. Et là, qu'est-ce qui se passe alors ?
Eh ben, ce qui se passe au moment des travaux, puis ça s'est accéléré à la mise en service, c'est qu'en fait, on constate un comportement chaotique en fait des deux cheptels de plusieurs dizaines de vaches, c'est-à-dire qu'ils refusent d'aller par exemple dans certains champs. Il y a des sortes de barrières invisibles. La traite se
barrière
passe
invisible,
mal.
Barrières invisibles.
Eh ben, c'est-à-dire que les vaches refusent à certains endroits de la route en fait d'aller plus loin.
Comme si elles se sentaient mal.
Comme si elle se sentait mal, exactement. Et donc la traite se passe mal également. Il y a du lait qui est caillé, il y a même des refus d'achat de lait, ce qui est dramatique hein, pour les exploitants agricoles. Il y a une surmortalité des vaches assez rapidement, une surmortalité importante pour les vaches les plus faibles, donc soit les plus jeunes, soit les plus vieilles. Ce qui va conduire en fait les agriculteurs à porter même très vite plainte contre en fait au départ l'exploitant et le constructeur du parc, et pour également allonger les délais en matière juridique.
Oui, parce qu'il y a à la fois les symptômes sur les animaux, mais il y a des pertes sonnantes et trébuchantes. Hein. Vous parlez de 93 000 euros de pertes pour une exploitation.
Oui, une exploitation qui a 300 000 euros de chiffre d'affaires, c'est vous dire si l'impact est important. Alors ça, c'est certifié. Hein. Tout ce que je dis, c'est des éléments qui ont été certifiés, même les conséquences sur les bêtes. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 20 études hein, sur ce parc. Certains disent que c'est le parc éolien le plus étudié en France. Et c'est véritablement dramatique hein, pour ces agriculteurs qui se sont décontenancés parce qu'au départ, ils étaient pour l'implantation de ce parc, et ils se retrouvent à en payer les conséquences sans non plus qu'on les aide beaucoup.
Oui, sans qu'ils comprennent vraiment aussi ce qui est en train de se passer. Parce que vous faites allusion à cette étude. Parlons de la première, par exemple, qui date de 2015. C'est une ex-professeure de l'école vétérinaire de Nantes hein, qui vient enquêter. Qu'est-ce qu'elle dit, cette étude ?
En gros, elle dit qu'il y a une concordance entre les travaux, la mise en service des éoliennes et les effets dévastateurs sur les bêtes. Et ce qui est intéressant, c'est que donc cette professeure qui est aujourd'hui à la retraite était extrêmement sceptique au départ et très dure avec les exploitants, en laissant entendre que ça venait sans doute de leur installation, de la façon dont ils organisaient leur traite. Et il se trouve qu'elle-même reconnaît que ça ne vient pas de ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les dernières études qui ont été faites là, en début d'année ont montré que ça ne venait pas des exploitations en tant que telles.
Mais dire qu'il y a une concomitance, c'est une chose, hein, et on le constate. Maintenant, ça ne donne pas d'explication.
Alors, l'explication aujourd'hui, on va dire la relation technique entre le parc et ses effets indésirables n'est pas établie. On pense, les hypothèses qui sont sur la table, c'est notamment que ça serait la liaison entre ces éoliennes et le circuit électrique traditionnel EDF qui serait en cause. Voilà. Ça, c'est ce sur quoi se concentrent les investigations aujourd'hui. Il y a un arrêt progressif du parc, c'est-à-dire chaque éolienne est arrêtée, sans qu'on prévienne d'ailleurs les agriculteurs pour ne pas qu'ils changent leur comportement et leur manière de travailler. Mais c'est en train d'être fait là actuellement, dans les jours qui viennent de s'écouler. Et on essaye d'identifier si c'est vraiment ça. Après, la préfecture de Loire-Atlantique évoque d'autres hypothèses. Il y a par exemple la possibilité qu'il y ait un faisceau radar, il y a les lignes à haute tension. Mais là aussi, ça reste des hypothèses assez vagues. Et celle sur laquelle on se concentre aujourd'hui, ça serait plutôt la liaison qu'on appelle équidistante, en fait, le champ magnétique provoqué par cette liaison.
Mais y a-t-il à votre connaissance d'autres parcs éoliens sur lesquels on identifie le même type de symptômes ?
A priori, dans l'Oise, il y a un parc où il y a eu des symptômes similaires et l'exploitant a choisi de changer d'activité, en fait, d'arrêter vaches et de passer aux céréales.
Mais ça reste quand même des cas exceptionnels, ce que vous nous décrivez.
A priori, oui, mais tout le monde est un peu perdu aussi face à cette situation. Il y a un interlocuteur de la préfecture qui a dit aux exploitants « ça ressemble un peu au scandale de l'amiante ». C'est-à-dire que tout le monde est un peu perdu au départ et que finalement, peut-être que ce parc-là va entraîner la manifestation, je ne sais pas, d'autres exploitants ailleurs en France. Ce qui est sûr, c'est que c'est très scruté depuis Paris et par aussi les syndicats agricoles.
On va rester prudent avant de le comparer au scandale de l'amiante.
Bien sûr, ça n'est qu'une phrase.
Ouais. Vous parliez également des habitants qui sont eux aussi ou dont certains se disent perturbés également.
Oui, alors ça, c'est peut-être le volet sur lequel l'État, notamment les services de l'État, ont pris le plus de retard, parce qu'il n'y a pas eu d'étude globale sur l'impact sur la santé humaine. Alors que, en fait, la plainte qui est déposée quasiment dans la foulée de la mise en service du parc, elle est aussi déposée par des riverains, une dizaine à peu près. C'est principalement des troubles graves du sommeil et l'accélération de certaines pathologies. On pense à des kystes, par exemple, à des cancers. Donc, c'est clair que ça existe. Mais alors là aussi, il faudrait qu'il y ait une étude précise qui soit faite pour savoir qui est touché exactement en nombre. Est-ce qu'il y a un lien direct avec le parc ? Et aujourd'hui, l'État dit on a sollicité l'ARS, l'autorité régionale de santé, mais on ne sait pas ce qui va advenir. Est-ce qu'il va y avoir une étude globale ? À quelle échéance ?
Là aussi, on va rester très prudent parce qu'effectivement, pour l'instant, on n'a aucune certitude scientifique. Donc, gardons une certaine distance tout en ayant l'esprit ouvert, comme on dit. Cela dit, il y a un autre aspect dans ce dossier, c'est que localement, c'est très sensible parce que les éoliennes, ça rapporte de l'argent à la collectivité.
Alors, c'est peut-être ça qui est intéressant à dire. Et un espèce de système local qui est assez évident. Quand un parc s'implante, il y a tout de suite un contrat qui est signé entre l'exploitant, le constructeur et les collectivités pour qu'il y ait de l'argent qui soit reversé chaque année, comme il y a de l'argent qui est reversé aux agriculteurs. Et chacun ne veut pas forcément remettre en cause et simplement, par exemple, arrêter le parc, ce qui est demandé depuis le début par les exploitants.
Ouais. Dernière chose, vous dites aussi que la préfecture travaille du coup avec la chambre d'agriculture pour une éventuelle délocalisation des exploitations. C'est-à-dire que les animaux finalement ou les fermes seraient obligés de quitter le site à cause des éoliennes ?
Alors ça, c'est un point extrêmement important. Pour un des deux exploitants, peut-être qu'on est sur le chemin de l'acceptation. Pour l'autre, c'est beaucoup plus compliqué. Dans tous les cas, c'est un point extrêmement sensible. Pour les services de l'État, c'est finalement facile de dire on va compenser de cette façon avec la chambre d'agriculture.
En les relocalisant, donc en leur donnant des terres.
Pour les agriculteurs, c'est beaucoup plus difficile. Il y a un rapport sentimental à la terre. Et ils y travaillent depuis des années et des années sur des temps très longs.
Ouais. Tout ça est donc mystérieux et on a envie effectivement de comprendre scientifiquement cette fois-ci ce qui est en train de se passer à Nozay. Merci Thibaut Dumas. Alors je précise que votre enquête, on peut la lire donc sur le site de Médiacité. Médiacité au pluriel, site payant, je le précise. Et je remercie par la même occasion nos confrères de France Bleu Loire-Océan grâce à qui nous avons pu établir ce duplex.